amateur, prends vacances.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, l'émission de théâtre en direct tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu. Et aujourd'hui, j'ai en studio deux personnes, Fatah Boudia et Antonin Cognet. Bonjour.
Bonjour.
Et nous allons continuer la lecture que nous avions commencée il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, du texte de Griselda Grönbaum, qui s'appelle « Les murs, las paredes ». Et Fatah, peux-tu nous faire un petit récap de ce qu'on avait lu, s'il te plaît?
Alors, Griselda Gambaro. Alors, pour présenter Griselda Gambaro, elle est née en 1928 en Argentine. C'est une auteure qui jouit d'une renommée qui a largement dépassé les frontières de son pays. Elle est auteure de romans, de nouvelles et d'une vingtaine de pièces de théâtre. Parmi elles, Les Siamois, La Malasangre et Des peines sans importance qui sont traduites en français. Les murs, en version originale, Las Paredes, qui a été traduit par François Stana. Donc, sans raison apparente, un jeune homme est conduit dans un lieu mystérieux où l'attend l'huissier. Donc, ce dernier est bientôt rejoint par le fonctionnaire et tous deux, à tour de rôle ou simultanément parfois, vont s'emparer du jeune homme et le dépouiller à la fois de ce qu'il possède et de ce qu'il est. En même temps, l'espace se réduit, les murs se rapprochent, la pièce se vide de ses objets. Le jeune homme assiste en spectateur à ce qui lui est infligé. Il finit par accepter la situation et la considérer comme normale. La dynamique perpétuelle de retournement des rapports entre les personnages va vous offrir une belle machine à jouer.
Ok, merci Fatah. Et juste donc pour rappeler, nous avions lu la scène 1 et 2. Donc là, nous allons vous proposer la scène 3 et 4. Et donc, la fin de la scène 2, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui se passait rapidement à la fin?
À la fin de la scène 2, l'huissier sort. Le jeune homme a l'espoir de pouvoir partir le lendemain matin. Et au moment où l'huissier sort, il y a un grand cri. Mmh. Le jeune homme dit à l'huissier, « Vous avez entendu ?» Et l'huissier lui répond, « Quoi? Non, je n'ai pas entendu. »
D'accord, merci. Pour la distribution, nous aurons donc Fatah Boudia qui sera le jeune homme, Antonin Cognet qui sera le fonctionnaire et moi-même, Charlotte Touilleux, qui sera l'huissier. Et donc, bonne lecture.
Scène 3. Même lieu aux dimensions sensiblement réduites. Les rideaux et le tableau ont disparu. Une petite lampe éclaire latéralement le jeune homme couché et endormi. L'huissier entre et allume la lampe du plafond. Il apporte sur un plateau en étain une tasse de café au lait et un morceau de pain.
Bonjour. Quelle heure est-il? Je dormais.
Marmotte.
Le fonctionnaire, il n'est pas encore arrivé?
Si, il est arrivé, mais il est invisible.
Il ne va pas tarder, n'est-ce pas?
Je ne peux répondre à aucune question. À aucune.
Vous m'aviez dit qu'il viendrait?
Oui, et alors? Viendra, viendra pas. Cette affaire ne me concerne pas. À l'avenir, je me limiterai à mes obligations. J'y trouverai mon compte.
Et pourquoi dites-vous cela? Vous avez eu des ennuis?
Pas mal. Et je vous prie de prendre votre petit déjeuner. Ici, je ne suis le planton de personne.
Ah oui, oui, naturellement.
Il y a déjà du sucre. Aujourd'hui, je n'ai pas apporté de couvert.
Cela ne fait rien. Laissez ce plateau, vous l'emporterez après.
Non, je l'emporterai maintenant. Hier soir, il manquait un couvert.
Un couvert?
Oui, cela m'étonne de vous. Mais il est évident qu'on ne peut avoir confiance qu'en soi. Et encore, pas toujours.
Mais qu'est-ce que vous insinuez?
Je n'insinue pas, j'affirme. C'est courant chez les jeunes gens. Un vice répugnant. Allez au café et voler les petites cuillères.
Les voler?
Oui.
Mais elle a dû tomber, enfin, moi. Escamoter une petite cuillère, enfin, comment cette idée a-t-elle pu vous traverser l'esprit?
Elle était en argent. Pourquoi pas?
Cela n'est pas dans mes habitudes, voilà pourquoi.
Ah monsieur, vos habitudes, c'est votre affaire. Moi, je ne sais que ce que je constate. J'ai apporté 4 couverts avec le dîner. J'en ai remporté 3. Vous n'êtes pas le seul. Il profite de l'impunité. Ils savent qu'ils ne seront pas jugés pour cela. Ils sont tranquilles, ils volent.
Vous êtes en train de me calomnier, enfin, que je sois maudit si j'ai touché à cette petite cuillère, enfin, pour en faire quoi?
Voleur!
Mais taisez-vous! Je ne vous permets pas de m'insulter.
Si, vous me permettez tout ce dont j'ai envie. Qui sait ce que vous aurez encore gardé?
Je vous répète que... Je me plaindrai au fonctionnaire. Je lui ferai part de vos stupides accusations.
Ah, faites-le. Votre sang-froid me surprend beaucoup. Mais c'est de ma faute. J'ai été trop naïf. Quelle erreur de vous avoir fait confiance. L'argenterie, mes confidences sur la campagne et tout le reste. Mais si on me cherche, on me trouve. Vous me payerez au centuple l'histoire de la petite cuillère. Vous verrez.
Le fonctionnaire est entré silencieusement sur les dernières paroles de l'huissier. Il a toujours un air théâtral et il est invariablement sympathique et souriant.
Que dites-vous? Ne vous énervez pas autant, vous allez avoir mal à la tête. Calmez-vous. Le jeune homme ne paiera rien. Il ne manquera plus que cela. Il est notre hôte, ne l'oubliez pas. Comment allez-vous, cher monsieur? Vous voir après tout ce temps me réjouit. Comme j'ai regretté nos conversations. Quel dommage que nous n'ayons jamais pu converser.
Oui, il m'accuse...
De rien. Enfantillage. Je ne veux pas le savoir. Allez, allez, mon garçon, à vos obligations. Ne vous retardez pas davantage. Vous avez beaucoup à faire ce matin.
L'huissier prend le plateau et en passant devant le fonctionnaire, il lui fait un clin d'œil en même temps qu'une révérence obséquieuse et excessive. Le jeune homme remarque, stupéfait, ce signe de complicité familière. Le fonctionnaire, très content, se frotte les mains.
Bien, 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 nous pouvons dire, comme dans les comédies, enfin seul.
Monsieur, vraiment, vous ne voulez pas savoir ce qui...
Rien, rien, rien. Comme vous le voyez, je me tri-répète. Votre affaire ne vous intéresse pas? Ce que vous êtes devenu apathique.
Ce que je suis surpris, dégoûté, m'accusé...
Plus un mot. Sur ce point, plus un mot. Les ragots, pas question. Voulez-vous que nous conversions sur le temps? L'art? J'aime l'opéra.
Sur ce que vous voudrez?
Non, dites, vous.
Avez-vous des nouvelles pour moi? L'huissier m'a dit qu'aujourd'hui, sûrement, je pourrais...
Chut! Ne prononcez pas le nom de celui-là. Il pue. Des nouvelles, j'en ai. Et de très bonnes, excellentes. Mais pourquoi cette hâte? Vita longa res breve.
Alors, ainsi vous avez des nouvelles?
Ce que vous êtes impatient. Vous aimez me cribler de questions. Laissez-moi respirer. Je ne suis pas jeune comme vous. Quel âge avez-vous?
22 ans.
Je l'ai tout de suite remarqué. Je vous en donnais 20 ou 40. Pas une année de plus. Et je l'ai remarqué à votre impatience, monsieur. Votre caractère. Sinon, vous vous comporteriez comme moi. Vous agiriez avec mesure, avec voluptueuse lenteur. À peine si vous bougeriez le bras dans l'espoir de ne pas bouger le temps. Ah, la jeunesse. Mon père fréquentait des maisons de tolérance. C'est lui qui me l'a dit. Quel vieux porc. Moi, non. Continence, modération, impuissance. Ce que vous êtes sérieux et silencieux. Vous ne riez jamais?
Si, évidemment.
Je savais bien que vous n'alliez pas me mentir. De quoi avez-vous tant ri, vous et l'huissier, l'autre matin?
L'autre matin?
Oui. Je passais par hasard dans le couloir. J'ai posé la question à l'huissier. Plaisanterie du monsieur, m'a-t-il dit. Vous êtes très gai, un caractère joyeux. Je vous approuve. La jeunesse, il faut en profiter.
Une plaisanterie de moi?
Oui, c'est pour cela que de vous voir aussi sérieux m'étonne. Racontez-moi la plaisanterie. J'aime rire, quand l'humour est sain, naturellement.
Mais non, aucune plaisanterie. C'était...
Oui?
Rien. Enfin, imaginez-vous que... Je ne sais pas comment l'expliquer.
Une histoire grivoise?
Non.
Ainsi, vous distriez l'huissier avec des histoires grivoises. Je ne protesterai pas, bien que, étant au travail, il n'aurait pas dû. Racontez-la-moi.
Non, ce n'était pas cela.
Courage! Je n'ai pas l'habitude, mais pour cette fois... Je vous en raconterai une autre. J'en connais des milliers.
Je vous répète que ce n'était pas pour cela. J'ignore complètement la raison pour laquelle l'huissier a commencé à rire ou pour le moins, enfin, je ne m'en souviens pas. Je ne voulais pas rire.
C'est étrange. Vous vous moquiez de moi, peut-être.
Non, je vous en prie. Comment pouvez-vous penser? J'ai eu le fou rire.
Et pourquoi est-ce qu'il riait, lui? Vous n'êtes pas en situation d'avoir le fou rire.
Je ne suis pas en situation...
Parce que votre situation n'est ni grave, ni drôle. Tutto affatto normale. Commenterez-vous mon italien? Je l'ai étudié avec D'Annunzio Gabriele.
Il me semble excellent. Enfin, vous le parlez très bien.
Buongiorno, buonasera, ou buonanotte,
Il sort de sa poche la montre du jeune homme et la consulte avec naturel. Ce dernier ne réagit pas.
C'est bien ce que je me disais. J'ai pris du retard. Maudite habitude que de me mettre à bavarder avec des imbéciles. Je m'enthousiasme, je m'égare. Jeune homme, très cher jeune homme, bonne nouvelle. Celle que vous attendiez peut-être. Ne jamais décevoir est ma plus grande joie. Oreille attentive ?
Oui.
Nous avons une surprise.
Je vous écoute, monsieur.
Vous n'imaginez pas ce que cela peut être ?
Oh, si, j'imagine.
Ce bref séjour que vous faites avec nous, con noi, doit rester en vous à tout jamais. Nous vous avons apporté... devinez.
Quoi ?
Oui, nous sommes allés la chercher jusque dans votre chambre, à la pension. Qui est-ce ?
Ben, qui ? Je n'ai personne.
Réfléchissez.
Personne ? Enfin, au moins dans ma... Enfin, c'est cela la nouvelle ?
Qu'attendiez-vous ? Je vous ai dit des nouvelles. Je sais, erreur de pluriel. Vous êtes content ?
Non, j'ai cru... Je croyais que j'allais retrouver la liberté.
Personne ne vous empêche de le croire. Huissier, vous savez qu'il y avait une sonnette ici ?
Non, mais je ne sortirai pas aujourd'hui.
En êtes-vous sûr ? Qu'y a-t-il de certain dans le monde ? Elle ne sonne pas.
Je sortirai aujourd'hui ?
Non. Appuyons sur la sonnette. Peut-être sonnera-t-elle. Nessuna cosa è certa.
Mais quand alors ? Enfin, je ne voudrais pas pêcher par importunité, monsieur le fonctionnaire, mais au bureau, ils sont très stricts. Quelle excuse vais-je donner pour cette absence ? J'ai peur de perdre mon travail, je ne dispose pas d'autres ressources et ma pension court. Enfin, je continue d'occuper ma chambre d'une certaine façon.
Votre pension court ? Quelle figure ! Nous ferons tout pour que cela ne se produise pas, que vous n'occupiez pas deux chambres à la fois, avec la pénurie de logement.
Alors je peux compter sur...
Surtout, croyez-moi, cela me satisfait de constater que, malgré votre situation, vous pensez au bureau.
Malgré ?
Votre brillante situation ! D'autres auraient la tête dans les nuages, vous pas. Vous êtes un jeune homme d'avenir. Quel casse-pied ! Vous avez entendu la sonnette ?
Non.
Pourtant, elle sonnait. Tout peut être certain, mais il vaut mieux s'en assurer. Huissier ! Huissier !
J'arrive, monsieur !
L'huissier entre content et il tient dans ses bras une énorme poupée de porcelaine à la bouche petite, rouge et pincée et aux cheveux bouclés. Ses vêtements ne sont que profusion de tulle et de broderie. Tout en elle est du plus mauvais goût et pas du tout enfantin.
Bien ! À point nommé. Vous avez lu dans ma pensée. Vous la reconnaissez ?
Cette horreur ? Enfin, j'attendais... Je ne m'explique pas que vous m'apportiez... Pourquoi ?
Ah non, monsieur, vous êtes devenu ingrat.
Excusez-moi, elle ne m'appartient même pas. Elle appartient à la patronne de la pension.
Mais vous l'aviez dans votre chambre. Huissier, où est-elle ?
Dans la chambre du monsieur.
Vous voyez ?
Elle était sur le lit, comme cela.
Il prend la poupée et la pose sur le lit. Il l'arrange avec une ostentation équivoque.
Sur le lit du monsieur, tout juste.
Vous dormiez avec elle, monsieur ? Comme produit de substitution, comment est-elle ?
Satisfaisante ?
Pas d'impudicité, huissier. Modérez-vous.
Pardon.
J'avais besoin de quelques chemises, de linge de rechange. Enfin, il est bien évident que si demain je peux retrouver la liberté, je vais...
Sortez, entrez, mais gare à la fessée. Nous vous avons apporté l'art, monsieur. Quelle importance ont les chemises. Vous pouvez rester avec une chemise sale jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à dans 1000 ans. Mais sans l'art, monsieur, ce serait l'asphyxie. Remerciez-nous.
La dame de la pension m'a instamment prié d'en prendre soin.
« Exceptionnellement, je permets que vous l'emportiez au jeune homme. C'est une âme sensible »,
a-t-elle dit. Elle s'exprime très bien pour une propriétaire de pension.
« Mais je hais cette poupée. Je ne savais pas comment m'en débarrasser sans vexer la patronne. Pas trop grande, une gêne dans la chambre, une aberration. »«
Aberration, peut-être. Vous l'aviez sur votre lit ?»«
Et alors ?»«
Comme la nuit, tous les chats sont gris, qui dit que... » »«
Oh, huissier, modérez votre langage. Je vous l'ai déjà recommandé. » C'est votre seul défaut.
Les autres se la passent les uns les autres. Personne ne la veut, personne n'ose la casser. Ils ont peur de la patronne, enfin, moi aussi.
Pas une seule fêlure. État parfait.
Non, ils n'ont pas peur de la patronne. C'est l'art, monsieur. Vous ne le comprenez pas ? C'est pour cela que vous n'avez pas osé la casser. Les autres de vos patronnes et vous-même. L'art est la seule chose qui mérite de perdurer. L'élévation des sentiments, le devenir des êtres et des choses. Vous ne cassez pas la poupée pour assurer la beauté des mondes, l'ordre. En un mot, pour que les arbres puissent continuer à pousser et à impulser de nouvelles feuilles vers l'extérieur, de sorte que la terre ne se transforme pas en une étendue désertique. Désolé.
Ah.
Très bien, monsieur. Quelle éloquence.
Merci.
Elle est si laide.
Oui, j'en conviens. C'est un véhicule disgracieux, mais elle remplit bien sa fonction.
Sa fonction ?
Oui, jeune homme, sa fonction. Elle sert l'art. Vous me plaisez parce que vous posez toujours des questions.
Je ne voudrais pas vous contredire, monsieur, mais j'aimerais la casser. Enfin, dès que je le peux, je la cache sous lit et même ainsi, je fais des cauchemars.
Vous vous trompez, monsieur. Vous protégez la poupée. Tous les autres aussi. C'est pour cela qu'elle est intacte. Cassez-la.
Que je la casse ?
Oui, et ne répétez pas, on dirait l'écho. Mettez-la en morceaux.
Mais elle n'est pas à moi ?
C'est pareil, qui vous en empêche ?
Enfin, pourquoi ? Je ne comprends pas.
Ce n'est pas ce que vous désiriez ?
Pas de cette façon.
Et comment ?
Par accident.
Les accidents se provoquent. Vous trébuchez sur cette chaise et adieu la poupée.
Il donne la poupée au jeune homme.
Courage, monsieur.
Enfin, je pense... Enfin, monsieur le fonctionnaire, vous aviez raison, je ne comprends rien. Mais pourquoi ne prendrais-je pas mon temps ? Elle sert l'art, peut-être.
Ah, sale hypocrite ! Cassez-la !
Si vous m'en donnez l'ordre, je le ferai.
En aucune façon. Que m'importe, je pars.
Non, non ! Je la casse !
Allez-y, monsieur, voici la chaise.
Je ne peux pas !
Mais dites-moi, vous ne m'auriez pas d'envie de la casser ? Donnez-vous donc ce plaisir.
Je ne peux pas ! Ah, ma patronne ! Même un verre, on avait peur de le renverser sur la table. Elle ronchonne toute la journée, je ne veux pas l'entendre.
Et pourquoi l'entendriez-vous ? Quand ?
Quand ?
Mettez-vous de la cire dans les oreilles, ôtez cette cochonnerie de la vue, cassez-la.
Mais pourquoi ? Cela ne me paraît pas convenable, vous aviez dit qu'elle représentait l'art.
Maintenant, je vous dis que c'est un épouvantail.
Mais elle n'est pas à moi. Elle appartient à ma patronne, enfin... Pardonnez-moi, je ne peux pas la casser. Est-ce à dire que je ne vais plus sortir d'ici ?
Comment pouvez-vous imaginer une telle énormité ?
Ah, j'ai pris peur. Arriver jusque-là sans être puni, monsieur le fonctionnaire, enfin, si ce n'était les cris de la patronne, je la casserais avec plaisir. Enfin, c'est une horreur, je le sais bien.
Je n'en serais pas aussi sûr.
Vous ne trouvez pas que c'est une horreur ?
Ah, comment se prononcer sans réfléchir sur une question aussi délicate ? Je méditerai cette nuit. Quelle heure est-il, jeune homme ? Non, 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 ne me dites pas l'heure, je la connais. Toutes les heures, jusqu'au coucher du soleil, je les connais. Et après tout, qui tient le compte du temps ? Pas moi. Ainsi, le temps m'oublie. Qu'il est tard, à demain. Je viendrai demain, attendez-moi assis. Nous bavarderons. Optimisme. Good night. Buonanotte.
Voulez-vous que j'aille jusqu'à chez vous ? Si vous me confiez la clé de votre chambre, je peux vous apporter votre nécessaire à raser, des vêtements de rechange.
Et pourquoi ?
Vous êtes sale. J'ai de l'estime pour vous, monsieur.
Alors je ne sortirai plus d'ici ?
Vous comprenez tout à l'envers. Probablement demain.
Et le fonctionnaire ne me l'a pas assuré.
Il est timide. N'avez-vous pas remarqué comme il rit toujours par timidité ? Il vous a promis de venir demain. Il vous apportera de bonnes nouvelles. Dans le cas contraire, il disparaît. Il promet de venir et il disparaît.
Ce ne sera pas le cas. Il viendra.
Ah, voilà qui recommence. Vous êtes content de nous ?
Oui. Oui, oui.
Nous ne nous lassons pas de parler de vous. Vos gestes sont commentés, vos générosités, jusqu'à vos petits tics.
Mes tics ?
Oui, même cela. Peu d'hôtes ont compté autant de sympathie. On ne peut pas les compter, c'est tout. Le fonctionnaire est enchanté. Quant à moi, je n'en parle pas. Nous avons tant de points communs.
Qui ?
Ben nous, la campagne. Encore, vous êtes venu directement de la campagne jusqu'ici. Moi, je rêve d'aller d'ici à la campagne. Laissez-moi vous sentir. Ouais, Marguerite. Trèfle ! Oh, odeur de poule aussi !
Ben non, pas de poule, enfin, je ne suis pas approché d'aucune poule.
Dommage. Mais un jour, vous avez dû vous en approcher. Et l'odeur vous est restée. Une odeur très agréable, hein, comme de la lavande. Je vous tiendrai au courant de votre situation.
Vous savez quelque chose ?
Elle était excellente.
Ils ont déjà vérifié comment je m'appelais ?
Ils en sont là. Enfo.
Ah, non, je ne m'appelle pas Enfo.
Ils en sont là. Ils ont vérifié que vous ne vous appeliez pas Enfo. Et dans le fond, ce qu'il vérifie n'a aucune valeur. Votre liberté est proche, elle est imminente.
C'est faux.
Ah, je vous remercie de votre confiance.
Et pourquoi le fonctionnaire ne me l'a-t-il pas dit ?
Par délicatesse.
Je ne comprends pas.
Aucune importance.
Je ne vous crois pas.
Parole d'honneur. Pourquoi vous dirais-je une chose pour une autre ?
Vous n'êtes pas en train de plaisanter, n'est-ce pas ?
Moi ?
Ce serait bête, cruel. Mais vous savez ce que cela signifie pour moi.
Comme pour moi.
Alors, je vous en prie, dites-moi la vérité.
Elle est dite comme à l'heure de la mort. Vous sortirez en liberté dans des heures. Demain, à la première heure. Qu'est-ce que j'y gagne ? Cela m'est égal.
Vous m'ôtez un poids. Enfin, j'étais un peu inquiet de l'appréhension, je m'en rends compte.
Ne vous accusez pas. Accusez la nature humaine, monsieur.
Très certainement.
Ne me remerciez pas. Savez-vous où je vais demain ?
Non.
À la campagne. C'est maintenant que je vais découvrir la gratitude de votre cœur.
Je ne comprends pas, mais si je peux vous être utile...
Vous le pourrez. Figurez-vous, je dois consulter l'heure très souvent. Me réveiller à 7h et prendre le train de 7h30. J'ai remarqué que vous aviez une belle montre. Souvenir de famille ?
Oui. Mon père me l'a offerte.
Ah. Auriez-vous la gentillesse de me la donner pour quelques années ?
Je ne l'ai pas.
Que dites-vous ?
Enfin, je l'ai perdue.
Vous l'avez perdue ici ?
Je suppose dans l'open space.
Ah ouais, cher monsieur. Si vous ne voulez pas prêter cette montre maudite, dites-le, et qu'on n'en parle plus. Mais n'usez pas de subterfuges. Je sais bien que vous ne pouvez pas avoir perdu votre montre dans cette chambre.
Je vous répète qu'elle n'est pas en ma possession.
Et je vous dis que vous mentez.
Mais regardez, je la mettais sous l'oreiller. Elle n'y est pas, elle n'y est plus, enfin, elle a disparu.
À qui voulez-vous faire croire cela ?
Mais à personne, enfin, je vous dis qu'elle a disparu. Mais vous êtes sourd. Qu'est-ce que je vais dire à mon père ? Je ne lui dirai rien, il est mort. Mais c'est la même chose, enfin, c'est comme si je devais le voir et lui rendre des comptes. Mon Dieu, mais quelle excuse donnerais-je à ma propre conscience pour l'avoir égarée aussi bêtement ?
N'êtes-vous pas en train de me faire un sale escamotage comme celui de la petite cuillère ? Il me semble que vous n'aimez pas prêter vos affaires, pingre dégoûtant.
Mais allez au diable !
Prenez garde, mon petit jeune homme. Ou alors, vous avez avalé le boniment de votre sortie demain ?
Il lui fouille les poches, retourne complètement drap et couverture du lit.
Il ne l'a pas. Même s'il avait fait exprès, serait-ce une excuse ? Quel idiot ! Il se l'est fait voler !
Je me la suis fait !
Ah, ne répétez pas ! Idiot ! Vous êtes un idiot ! Vous ne pouvez le nier ! Quelle malchance ! Le traiter avec autant de bémols pour ce résultat ? Quel insatiable ! Maudit soit-il ! Pourquoi veut-il autant de montres ? Je ne peux jamais rien avoir.
Qui ça, il ? Que dites-vous ?
Vous ne le savez pas. Aïe. Idiot ! Mais vous êtes un idiot ! Putain, mais quel idiot ! Je vous tuerai, pas trop aussi idiot !
Non vi una stella in cui succede di lì.
Scène 4. La scène est dans l'obscurité. On retrouvera ensuite le même lieu, mais les dimensions en sont considérablement réduites. Seul meuble, un petit lit et une chaise. On entend la toux et la respiration de quelqu'un qui est très enrhumé.
Je peux allumer ?
Oui, bien sûr. Enfin, je suis réveillé, allumé.
Pardonnez-moi de vous déranger à cette heure, mais c'est mon seul moment de libre. Je me suis dit, mieux autant que jamais.
Le jeune homme est assis sur le lit. Ses vêtements sont froissés. Il a un œil au beurre noir et bouge comme s'il avait reçu une volée de coups.
Je vous en prie, ne vous dérangez pas du tout, au contraire. Je vous remercie beaucoup d'être venu, apparemment. Vous êtes enrhumé.
Bon, parlez pas. J'ai attrapé une grippe hier soir, sorti du théâtre. L'air chaud de l'intérieur, la nuit froide. Tout compte fait aujourd'hui, je n'en peux plus. Je tiens debout par miracle. Pur esprit. Vous aimez le théâtre? Je suis allé écouter Lucie de la Mort-Mort. L'arrière de la folie me fait dresser les cheveux sur la tête. Barrage de beaux sièges. J'adore le bel canto, jeune homme. L'opéra. Moi-même, par ex.
Vous-même?
C'est pas étonnant?
Ah, magnifique. Vous-même.
Vous ne croyez pas? C'est toujours la même chose. Personne n'imagine qu'on a sa propre sensibilité. Tous voient le fonctionnaire. Quelle époque! Écoutez!
Ah, oui, quelle belle voix. Enfin, bien sûr, enfin, comment aurais-je pu y penser?
Attendez.
Félicitations. C'est extraordinaire. Si j'avais cette voix... De vraies dispositions artistiques. Vous produisez quelque part?
Me produire quelque part, non, pas question. Avec ce rhume. Si je pouvais quitter mon poste, mais à ce moment-là de ma vie, qui s'y risquerait? Moi, pas. Je chanterais à la Scala. Ah, jeune homme, votre affaire. Que de temps perdu à parler. Mais que vous est-il arrivé à l'œil?
J'ai eu une anicroche avec l'huissier.
Quel genre d'anicroche? Il vous a frappé, peut-être?
Oui. Il m'a frappé.
Ah, c'est votre habitude de dénoncer les absents?
Dénoncer?
Qu'êtes-vous en train de faire?
Ce n'était pas mon intention, absolument pas. Ben justement, je voulais vous expliquer ce qui s'était passé.
Soyez bref, je n'ai pas tort à revendre. Cela ne me plaît pas non plus, je suis jeté dans le dos des autres.
Je ne le souhaite pas. Comment pouvez-vous supposer?
Pour moi, il n'y a pas de subordonnés et des inconnus. Il y a des amis et des ennemis. Donc, exposez vos plaintes avec précision. Nous y trouverons notre compte. Jugement de Salomon, cher monsieur.
Cela a été une erreur.
Taisez-vous. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Alors, qu'attendez-vous?
L'huissier m'a demandé de lui prêter ma montre.
Quelle impudence. C'est pour ça que vous l'avez frappé?
Non, c'est lui qui m'a frappé.
J'avais compris le contraire.
Non, regardez mon œil.
Il est noir. Et pourquoi avez-vous frappé l'huissier?
Mais non, monsieur, je ne l'ai pas frappé. Il est venu.
Ne dites pas il, dites l'huissier. Mieux vaut éviter toute familiarité.
L'huissier est venu et...
Vous pourriez dire monsieur l'huissier. C'est più bello, più delicato, non?
Monsieur l'huissier est venu et m'a demandé de lui prêter ma montre.
Quelle impudence. C'est pour cela que vous l'avez frappé?
Non. Enfin, non, monsieur, je ne l'ai pas frappé.
Cependant, les faits sont très clairs. Les faits chantent sur le champ des preuves. L'huissier est venu et vous a demandé la montre. Vous vous êtes mis en colère et vous l'avez frappé. Et voyons voir. À qui appartenait la montre?
À moi. Un souvenir de mon père.
Bon, mais l'huissier a l'âge de votre père. Je ne comprends pas pourquoi vous avez agi avec autant de violence.
Je vous assure que je n'aurais pas levé la main sur lui. Enfin, je ne l'aurais pas osé.
Pourquoi pas? Il le méritait alors.
Il me semble que c'est un malentendu, monsieur. J'ai mal.
Il n'a aucune tache à l'œil. L'huissier, mais cela ne suffit pas pour vous juger. Vous vous en rendrez compte. Laissez-moi voir. Ce n'est pas de naissance?
Non, monsieur, hier je ne l'avais pas.
Oui, mais parfois des accidents semblables se produisent. On se couche sans mal de dents et on se lève avec un mal de dents. C'est ce qui a dû vous arriver. Peut-être croyez-vous, d'aventure, que ce rhume, que j'ai de naissance. Vous ne m'avez pas non plus attendu debout. Quel manque de courtoisie. Je suis gentil, mais pas idiot.
Pardonnez-moi, Je ne me sentais pas bien, je suis moulu.
Est-ce ma faute? Moi non plus, je ne me sens pas bien et je suis là, accomplissant votre devoir. Faisons abstraction de tout ce qui est personnel, jeune homme. Parce que si nous restons dans ce train de « je sens et je ne sens pas », nous n'en finirons jamais. Vous savez que les minutes dont je dispose sont comptées et vous me retardez. Vous le faites exprès?
Non, non, monsieur. Je ne sais comment vous exprimer à quel point je le regrette.
Enfin, une phrase pertinente. Voulez-vous savoir comment marche votre affaire? L'affare?
Oui, s'il vous plaît.
Lascia stare.
Je ne comprends pas.
Pourquoi n'étudiez-vous pas? L'avenir appartient à ceux qui étudient les langues. Je vous ai fait une communication digne d'intérêt. Pour quel résultat? Aucun. Vous vous êtes levé du pied gauche, vous, ce matin.
Ah oui. Vous seriez très aimable de
la répéter? Comme si cela ne coûtait rien. Faisons un effort. Votre affaire marche bien. Parfaitement bien. Vous voulez plus de détails? Je vous en donnerai. Quel nom compliqué que le vôtre? Comment se prononce-t-il? NKO, NKO, MPO? Ah, mais peu importe. Pour les résultats ultimes, c'est exactement pareil. Sans plus attendre, je veux vous congratuler. Heureux jeune homme. Demain, à cette heure-ci, vous... Allons. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous êtes pas ennuyé avec nous, hein, n'est-ce pas? La vie est un songe et la mort. N'ayez pas peur. Seulement la rêver vous coûterait un peu.
Que dites-vous?
Si j'étais jeune, vous ne savez combien je vous envie. Ah, la jeunesse. Je me consacrerai au chant. Do, do, do. Allez, à demain, mon garçon, à demain. Quoique demain, nous ne le verrons plus. Sait-on jamais?
Il sort. Le jeune homme se palpe le visage, essaye de se promener dans la très petite chambre, se heurte au lit. Il prend la poupée qui était à terre, la regarde, puis la pose sur le lit. Il l'arrange maladroitement, s'assied près d'elle sur la chaise, comme s'il veillait quelqu'un. Au bout d'un moment, l'huissier entre avec une cuvette et une compresse.
« Voulez-vous vous mettre cette compresse? Cela vous soulagera. Le fonctionnaire me conseille toujours d'agir avec modération. Frappe, mais essaye de ne blesser personne, me dit-il. » Quoique, en cette occasion, il ne m'a pas réprimandé. Il est si compréhensif. Prenez. Tenez-la. Vous avez mal?
Non, enfin, plus maintenant.
Je ne suis pas allée à la campagne aujourd'hui. Vous vous souvenez? Je rêvais de respirer du trèfle et des marguerites. Allez, huissier, m'a prié le fonctionnaire. Vous avez besoin d'un peu de soleil, de détente. Distrayez-vous. Mais je n'ai pas pu partir. Chacun des coups que je vous ai donnés me faisait mal dans ma propre chair. Le remords me secouait.
Je ne veux rien savoir de vous.
Comprenez-moi, mon ardent désir de retour à la campagne, à la vie saine et bucolique, m'impulse des gestes incompatibles avec le bon goût, même un peu méprisables, je l'admets. Mais est-ce ma faute?
Je l'ignore, et vous devez le savoir.
Je ne sais rien. Très confortable votre attitude. Je commets des actions méprisables sous l'impulsion de nécessités lyriques et je ne mérite pas de la tolérance. C'est comme l'histoire de la montre. Monsieur, pourrait-il me pardonner? Quel malentendu, l'histoire de la montre. Mais jeune homme, la vie entière n'est-elle pas par hasard un malentendu? Menons-nous la même vie? Et alors pourquoi la même fin? Est-ce juste? Comment ne pas perdre patience?
Cela ne m'intéresse pas. Je sors demain. Nous ne nous verrons plus. Et dès maintenant, je vous dis, je m'en réjouis.
Hélas, non. Vous ne pouvez disparaître et me laisser avec du remords. Je ne le supporterai pas. Pour la montre, excusez mon attitude. J'ai agi avec une véhémence excessive. Après tout, le fonctionnaire était dans son droit.
Vous croyez qu'il a emporté ma montre?
Oui, c'est son habitude. Après, il les vend.
Mais vous mentez! Le fonctionnaire est un monsieur, un père, oui, un père.
Personne n'en doute. Je ne tolérerai pas la moindre mauvais mot contre le fonctionnaire.
Mais vous êtes en train de dire qu'il a volé ma montre.
Qu'il l'a emportée. Attention aux expressions, jeune homme.
Mais c'est la même chose.
Ah non. J'ai soutenu qu'il avait emporté votre montre. Mais de là au vol, il y a tout un monde. Vous ne trouvez pas?
Ma montre.
Celle de votre père, n'est-ce pas? Cela fait mal de perdre les souvenirs de famille. Ce n'est pas la valeur intrinsèque que l'on déplore, c'est le sourire avec lequel ils nous ont donné la montre, les paroles...
Mais comment le savez-vous?
Je le sens.
Alors, s'il vous plaît, répondez à cela, rien qu'à cela. Le fonctionnaire, il a emporté ma montre?
En premier lieu, que voulez-vous que je vous réponde ?
Oui ou non ?
Je suppose !
Impossible ! Il m'a assuré par excès d'honnêteté pour qu'aucun fait imprévisible ne puisse le démentir, que je sortirai demain. Et vous soutenez maintenant ? Emporter ma montre ? Mais pourquoi ? Il me l'aurait demandé. Enfin, c'est un fonctionnaire, pas le premier venu.
Qui soutient le contraire? Je crois que vous voulez penser que le fonctionnaire n'a pas emporté votre montre. Pourquoi ne pas vous faire ce plaisir?
Ce n'est pas que je veuille le penser. Enfin, je refuse de croire à pareille infamie. Je serai comme un père pour vous, m'a-t-il dit.
Il l'est. Un père vous donne une montre, un autre père vous la prend. Je plaisantais. Vous aurez perdu la montre dans la chambre. Avez-vous réexaminé vos poches ? En parlant de vos poches, n'auriez-vous pas quelque chose ?
Pourquoi ?
Comment pourquoi ? Vous ne voulez pas être informé d'une nouvelle qui vous intéresse de très près ?
Mais quelle nouvelle ? Je sors demain. C'est de cela que je dois me préoccuper.
Certainement. Vous feriez bien de vous en préoccuper. Cela reste à voir.
Comment ?
Ah non, je déteste la précipitation.
Mais que savez-vous ?
La gratitude est un sentiment méritoire. Mais on ne peut rien acheter avec, pas même une poule. Et comment vais-je concilier mon appétit de poule et...
Il sort nerveusement son portefeuille et lui donne quelques billets.
Allez, finissons-en. Que se passe-t-il? Ils ont avancé la date? Je sors aujourd'hui, c'est ça?
Je ne dis rien pour le moment. Je ne dis absolument rien. Quelle mesquinerie! Gardez-le, votre sale argent!
Il empoche cependant les billets.
Maudit pingre. Vous êtes sur le point de... Je me tais. Bonne nuit.
Revenez ! Vous n'allez pas me laisser ainsi ?
Vous ne m'arracherez pas un mot, misérable.
Il sort. Le jeune homme se frotte énergiquement les mains avec un geste d'impuissance. Il marche, se heurte au meuble. Brusquement, il se dirige vers la porte et appelle.
Huissier !
Monsieur ?
Le portefeuille peut-il servir ? S'il vous plaît, vous voulez bien parler? Le fonctionnaire m'a promis que demain je...
Un peu abîmé sur les bords, votre portefeuille, jeune homme. Vous ne pouvez pas m'offrir autre chose? Le prix a augmenté.
Mais vous êtes un...
Ne discutons pas! Si vous n'êtes pas d'accord, je disparais. Sortie de scène définitive. C'est de votre faute. Vous sortez avec si peu d'argent.
Mais que voulez-vous que je vous donne? Enfin, l'impossible! Vous ne voyez pas que je n'ai plus rien? Enfin... Quand je sortirai...
Ne comptons pas là-dessus.
Je ne sortirai plus ?
Je ne l'ai pas affirmé. Votre avenir ne m'intéresse pas. Je ne m'engage sur l'avenir de personne. C'est comme si vous étiez mort. Façon de parler.
Voulez-vous la poupée ?
Ce machin ? Ah non. En plus, comment pouvez-vous me donner une chose qui ne vous appartient pas ?
Excusez-moi, mais qu'est-ce que je peux vous offrir ? Je n'ai rien, vous ne comprenez pas ?
Je pars.
S'il vous plaît, je n'ai pas voulu vous offenser, je perds la tête. Qu'est-ce que vous savez? Comprenez mon inquiétude.
Je la comprends, je la partage. Aucune raison bâtarde m'a fait augmenter le prix, jeune homme. Les vieilles nouvelles sont celles qui coûtent le plus. Oui, monsieur, cela fait déjà une demi-heure que j'ai appris par hasard, en collant mon oreille à une porte, quelle allait être votre prochaine destination. Peut-être ignorez-vous ce que signifie une demi-heure dans la vie d'une nouvelle? Cela peut signifier beaucoup de temps. Il peut arriver qu'on ne la connaisse plus, qu'elle soit devenue un secret. Et le secret, c'est comme la mort. Je ne cherche pas à vous effrayer. Personne ne sait ce qu'il y a derrière. Cela peut être, oui, la mort.
Ma mort ?
Encore avec votre mort. Je parle en général. Je pourrais le faire en particulier, si vous le voulez. Enquêter sur votre personne... Qui vous assure que vous n'avez pas oublié quelque chose de valeur dans vos poches?
J'ai ce porte-clé. Il peut peut-être servir.
Sans clé?
Elles ont disparu.
Ah oui, quand nous avons tout emporté de votre chambre.
De ma chambre?
Non, de la mienne.
Mais vous avez dit que vous aviez tout emporté de ma chambre.
Quelle réticence! Vous êtes capable d'épuiser un saint. Nous vous avions bien apporté la poupée. Qu'avez-vous cru? Que nous étions entrés par la fenêtre? Ne discutons pas, je la ferme. Affaire conclue.
Vous parlerez ?
Naturellement. De toute façon, je vous aurai communiqué la nouvelle. À quoi peut-elle me servir ? Un tel scandale n'était pas nécessaire. Pourquoi avez-vous crié ? Vous n'êtes pas bien avec nous ?
Si.
Voilà, Comme ça, vous me plaisez. Joyeux. Voulez-vous vous asseoir? Non? Vous seriez mieux. Assis, les genoux ne se relâchent pas. En tout cas, le sol est plus proche. Voilà, très bien. Vous communiquez une nouvelle aussi surprenante pour si peu. C'est un cadeau, hein? Non, asseyez-vous. Vous êtes prêts?
Oui.
La nouvelle est la suivante. À minuit, les murs tomberont sur vous. Cela serait revenu en même que vous ne le saviez pas. Exceptionnellement, la nouvelle, c'est la mort. La mort, c'est comme un secret. Montrez que vous ne le savez pas.
Que dites-vous, canaille ?
Un peu de modération dans les termes. J'aurais aimé vous communiquer une autre nouvelle. Votre prochain mariage, par exemple. Malheureusement, pas question de femme. Je ne suis pas misogyne, mais dans la nouvelle, il n'y a pas de femme.
Mais écoutez-moi, vous ne parlez pas sérieusement, n'est-ce pas ?
Vous vous souvenez des cris ?
Oui.
Vous voyez ?
Mais vous vous trompez. Vous vous trompez complètement. Il crie par vice. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, le fonctionnaire me l'a expliqué.
Très intéressant. Que vous a-t-il expliqué ?
Qu'il crie par vice. Le temps les fait crier, ils passent sans les toucher, comme s'ils étaient morts. Et alors, il crie pour appeler le temps, pour qu'ils viennent et les touchent, qu'ils les vieillissent et les fassent arriver au bureau. C'est ce qui leur arrive aux autres. Moi-même, parfois, j'ai ces impulsions-là, je pense au bureau, je m'angoisse.
Ils ne sont pas tous employés de bureau.
Mais ils crient parce qu'ils se fatiguent, s'ennuient. Mais ils ne meurent pas.
Non, ils ne meurent pas.
Vous étiez en train de mentir.
Il les tue. Avoir vécu et mourir dans un lit, ou laisser venir la mort comme un rêve, ce n'est pas la même chose. Reconnaissez-le. C'est un autre tempérament, une autre situation.
Non, non! Vous voulez me faire peur! Dans quel but, je ne sais pas, mais vous voulez me faire peur!
Dieu m'en garde.
Mais vous n'y êtes pas arrivé!
Il n'est pas facile de faire peur aux
mais
gens.
Mais qu'avez-vous cru? Maintenant, dites-moi la vérité!
Les murs vont tomber sur vous. C'est notre habitude quand minuit sonne. Heure funeste, heure nuptiale. Allez savoir si c'est une chose, si c'est l'autre, si ce sont les deux à la fois.
Mais vous ne pouvez pas me communiquer cela si tranquillement! Vous ne pouvez pas exiger de moi mon portefeuille, le porte-clés pour me communiquer une nouvelle comme celle-là!
Une nouvelle comment?
Aussi atroce!
Ah, quelle interprétation arbitraire! Pourquoi n'aurais-je pas eu le droit de vous demander une juste rétribution? Que dis-je, juste? Une misère. Vous réclamiez la nouvelle. Bonne, mauvaise, cela vous regarde. Qu'est-ce que j'en sais? Cela aurait pu être même une bonne nouvelle. Qu'étiez-vous avant? Employé de bureau? Tous n'ont pas la chance de mourir aplati, écrasé.
Vous ne pouvez pas me communiquer une nouvelle comme celle-là. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais vous êtes fou!
Monsieur, que voulez-vous que je vous dise? Vous faites un drame de tout. Je me borne à vous donner une nouvelle confidentielle, et vous? Vous n'en finissez plus.
La chambre est devenue plus petite. Mais cela peut arriver. Ce n'est pas une chose horrible.
Non.
N'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans un pays de fous. La pièce n'est pas devenue plus petite. Le vin?
Oui.
Je me suis trompé. Après, je n'ai plus compté. La pièce a cessé de bouger. Personne ne bouge le monde. Il est toujours pareil. Intact.
Vous faites erreur, monsieur. On en bouge le sol.
Non! Les murs! Les murs! Vous êtes en train de me mentir?
Pourquoi pas? Je vous mens. Je ne vous mens pas. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Y a-t-il de quoi pousser les hauts cris?
Mais cela signifie beaucoup! Cela me tape sur les nerfs! Fichez-moi la paix! Vous m'étourdissez! Vous me...
Ça y est! Vous êtes mis en colère! Finalement, vous êtes mis en colère! Je plaisantais! Nous sommes tellement réjouis quand vous avez cessé de débloquer avec la chambre. Votre état de santé nous inquiétait. C'est pour cette raison que nous sommes allés chercher la poupée, là, comme dit monsieur le fonctionnaire, pour que vous vous distrayiez.
C'est pour cela que vous me mentez maintenant. Pour me distraire, pour me mettre à l'épreuve.
Oui.
Je n'en tiendrai pas compte. J'ai toute ma tête.
C'est bien ce que je craignais. La vérité est morte. Le tableau fait très bien.
Mais...
Dans l'autre chambre. Un jeune homme aussi, le tableau lui a plu. Par ailleurs, nous utilisons toujours le même.
Dans l'autre chambre, où le fonctionnaire a dit qu'il était pour moi, il l'a choisi pour moi.
Absurdité.
Dans la cave.
Absurdité ! Vous vous imaginez que nous allons avoir un tableau pour chacun ? Et quand les murs tombent...
Il faut recommencer, imbécile !
Pardonnez-moi, l'habitude.
Et les rideaux ? Ils sont aussi là-bas, les rideaux dans l'autre chambre.
Évidemment.
Ma montre, elle est là-bas ?
N'avez-vous pas réglé ce point ? Ne l'aviez-vous pas perdu ?
Je ne sais pas. Peut-être est-elle là-bas et vous l'ignorez. Peut-être ce jeune homme qui a occupé sa chambre s'en est-il approprié ?
Oui, oui. Déduction très judicieuse. Pourquoi ne pas y avoir pensé avant ? Le troisième larron ?
Mais peut-être est-il en ce moment en train de consulter l'heure. N'auriez-vous pas vu par hasard ma montre dans ses mains ?
Il m'a semblé la voir. Oui, oui. Quand il l'a rangée dans sa poche. Quelle cochonnerie.
Quand je sentirai, je lui casserai toutes les dents.
Je vous approuve. Défoulez-vous.
Dimanche, j'irai à la campagne.
Moi aussi. Nous sommes comme des frères.
J'ai besoin de me reposer une journée entière. Lundi, je retournerai au travail. Ils ne me créeront pas de problème.
Ne vous inquiétez pas. Par ailleurs, le fonctionnaire vous recommandera. Il connaît tout le monde. En parlant du fonctionnaire, je pars. Je ne veux pas qu'il m'accuse d'être bavard. Quel caractère. Une vraie gueule.
Écoutez-moi, vous m'avez promis de me communiquer une nouvelle.
Je vous en ai tellement communiqué.
Vous m'avez menti ?
Oui, oui. La vérité suspecte.
Dimanche, j'irai à la campagne.
Très bien, pas d'objection. Mais il reste encore quelques jours jusqu'à dimanche. Vous ne pouvez attendre debout. En aucune façon. Venez, asseyez-vous là.
Il lui approche une chaise. Le jeune homme s'assied docilement. Pris d'une inspiration subite, l'huissier lui met la poupée dans les bras. Il le contemple en souriant.
C'est cela. Soyez gentil et attendez. Dimanche, vous irez à la campagne. Ne l'oubliez pas. Restez tranquille. Ne bougez pas. Attendez. Attendez. Attendez.
Sur ces mots, il sort doucement, furtivement, avec toujours la même expression amusée et souriante. La porte reste ouverte. Le jeune homme regarde la porte ouverte. Puis, avec une détermination docile, très raide, la poupée dans les bras, les yeux incroyablement et stupidement ouverts, il attend.
Voilà, c'était donc la lecture du texte « Les murs » de Griselda Granbaro. Donc nous avions pour le jeune homme Fata
Boudia, excuse-moi, j'ai eu un bug.
C'est ça.
Pour le fonctionnaire Antonin Cognet et moi-même, j'étais Lucie. Et maintenant, nous allons retrouver la fabuleuse chronique de Thomas Lynn.
Et bonjour à vous auditeurs. Cette semaine, j'ai été voir la chanson de Roland à partir de la traduction du texte ancien par Frédéric Boyer, interprété par Julien Tiffen au TNP. Cette pièce fait partie du cycle Le berceau de la langue, qui consiste en la mise en scène dans des formes assez légères de quatre textes fondateurs de la littérature française, vieux mais alors très vieux, la chanson de Roland du XIe siècle, Tristan et Iseut du XIIe siècle, le roman de Renard du XIIIe siècle et le franc archer de Bagnolet du XVe siècle. Ça fleure bon la vieille langue, ça triture l'adjectif, ça tape dans le haut du panier et ça sait de quoi ça parle. Autant dire qu'il a fallu faire ça bien et sortir le dictionnaire des synonymes pour écrire cette chronique. Voici donc la chanson de Roland en 3 minutes. Roland le Preux, neveu de Charlemagne, qui en ces temps Charles le Grand s'appelait, était beau-fils du félon Ganelon. Par la frangine de Charles l'élancé qu'il, Ganelon le félon, avait marié et dont il avait fils. Ce fait de lui le beau-frère de Charles le Chétif et beau-père de Roland le Brave. Roland était ami d'Olivier, le sage, frère d'Aude, de la belle, femme de Roland le dévoué, pour la main de laquelle ils avaient combattu, duel que Roland avait gagné. Par là, Roland le téméraire avait épousé Aude l'aimable, et non Olivier l'éclairé, son frangin à elle, ce qui fait de Roland l'indomptable, le beau frère d'Olivier le sensé, mais évite aussi l'inceste de justesse cependant. Et fait d'Aude la bonasse, mouquère de Roland, la belle nièce de Charles. Roland le fanfaron ne s'entendait pas avec Ganelon le traître, son parâtre par alliance, fils de Griffon de Hautefeuille qui vengea Loyer le Bel, fils de Charles l'Asperge, en tuant le duc d'Aigremont, dont il n'est pas prouvé qu'il soit le neveu par alliance. Ganelon le forfaiteux, par ailleurs fils de sa mère, n'avait donc aucun lien de sang avec Roland le déraisonnable, sauf à considérer que Griffon de Haute-Fondaison soit cousin de Charles le Molasse, ce que je ne ferai ici. Ganelon le vendu, par ailleurs fils de Catin, n'aimait donc pas Roland le frustre, et demanda à Mazil, appelé le sanguinaire parce qu'il avait tué un fils qui faiblissait à la bataille, un de ses fils à lui, Mazil le cramoiseux, et non à Roland le grège, qui n'en avait pas, ni à Ganelon le Judas, qui sinon ne lui aurait rien demandé, de l'aider à tuer Roland. Ganelon la balance, pourtant connoissait l'affection que Charles le Flasque avait pour Roland le gougnafier, surtout depuis la mort de son fils Loyer le poseur, et surtout que son propre daron, celui de Ganelon le perfide, Griffon de Haute-Amure, l'avait vengé en tuant le duc d'Aigremont, dont il n'est pas prouvé qu'il soit son neveu par mariage. Roland le bœuf était resté en arrière avec la garde de l'arrière, sur son destrier vaillantif, qui n'avait lignage avec aucune des personnes susdites, étant lui-même un bourrin, c'est-à-dire un cheval. Et paf le Roland, et paf le Ganelon. C'était la chanson de Roland, en 3 minutes, dans le cadre du cycle Le berceau de la langue que propose cette année le Théâtre National Populaire. Vous pourrez retrouver ce cycle en avril 2016, ce que je ferai pour ma part, et s'il y a des dates supplémentaires, je ne manquerai pas de vous les dire. Les détails sont sur le site du TNP. Bien à vous et amicalement.
Merci Thomas pour cette fabuleuse chronique qui à chaque fois nous fait bien rire. Et juste avant de terminer l'émission, je vais laisser la parole à Antonin pour nous lire un communiqué de presse concernant le Croiseur et le retrait des subventions de la DRAC.
Je vais vous lire donc le communiqué de presse du Croiseur, salle de spectacle en péril. Mesdames, messieurs, le Croiseur, scène découverte de Lyon, est victime du brutal retrait des subventions de la DRAC. Nous sommes donc, très logiquement, extrêmement inquiets pour notre avenir de salle de spectacle dédiée à la jeune création en danse et en théâtre. Les 112 000 euros annuels dont bénéficiait notre structure au titre de subvention de fonctionnement se répartissaient ainsi. 50 000 € de la ville de Lyon, 25 000 € de la région et 37 000 € de la DRAC. Après le retrait de la DRAC, il ne reste plus que les subventions de la ville et de la région. Sachant que la ville ne pourra pas augmenter sa participation, que se passera-t-il si la région stoppe également son financement? Réponse. Nous n'aurons plus que 50 000 €, soit une perte sèche de plus de 60% de nos subventions de fonctionnement. Il y a donc urgence. Urgence si vous voulez contribuer à tenter de sauver le Croiseur qui œuvre depuis 16 ans à l'accompagnement artistique d'une 60aine de jeunes compagnies chaque année. Fait de la diffusion, de l'accueil, des studios mis à disposition et... bien sûr, un soutien à la structuration administrative. Nous avons lancé une campagne d'appel aux dons sur la plateforme Litchi, L-E-E-T-C-H-I, donc www.litchi.com/c/lecroiseur-en-danger. Et il est vital pour nous que cette plateforme soit l'endroit d'un fort ralliement, symbole d'une volonté affirmée de défendre le Croiseur. C'est notre seul moyen actuellement pour résister, placé que nous sommes en situation de survie, avec des emplois menacés et des compagnies déprogrammées. Le samedi 9 janvier, une soirée ouverte à tous est prévue au Croiseur. Prise de parole, réflexion et moments artistiques. Plus d'informations seront à venir, bien sûr. Ce sera le moment d'un premier bilan de situation concernant notre lutte et plus largement d'une possibilité d'expression offerte à l'ensemble des acteurs concernés du monde artistique et culturel. Nous espérons en votre vigilance et comptons sur votre soutien. Soyez-en grandement remerciés. Le Croiseur en lutte. Pour que vive la jeune création.
Merci Antonin. Et donc à vos agendas, le 9 janvier, une soirée de soutien. Et sinon sur la plateforme Litchi, c'est ça?
Litchi.
Parfait, merci. Et ben donc, merci Fata pour la préparation de cette émission.
Merci.
C'est un magnifique texte.
Merci.
Merci Antonin. Et donc, je vous souhaite à tous...
Merci Charlotte aussi. Merci Charlotte.
Super.
Pour la technique.
Oui. Et donc, je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine, en janvier, le 8, juste avant la fabuleuse soirée de soutien du Croiseur. Comme ça, je répète au moins 3 fois, comme ça, pour être sûr qu'on a bien entendu.
La fabuleuse soirée de soutien du Croiseur.
Voilà, le 9 janvier.
Le 9 janvier.
Ouais. Le 9 janvier. Voilà.
Juste on ne sait pas encore. Alors, le Croiseur, allez-y, c'est juste après Jean Massé.
Allez-y tous.
Allez-y. Et joyeux Noël à tout le monde.
Allez, joyeux Noël et bonne fête.
Bonne
à l'année prochaine.
Salut.
Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.